Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous. La dernière fois que j'ai fait une conférence à Taillebourg, c'était en 1984, à la demande de M. Texier, le maire de l'époque, qui m'avait demandé de parler de l'utilisation du fleuve Charente au Moyen-Âge. Je ne travaille pas en Charente, j'habite dans la région parisienne, mais je travaille depuis plus de 30 ans sur l'histoire médiévale de la province, et en particulier sur l'histoire de Taillebourg. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la bataille de Taillebourg, le 21 juillet 1242. J'ai intitulé cette conférence « Une bataille incertaine » avec un point d'interrogation. Je vous dirai en conclusion ce que j'en pense. C'est une bataille, la bataille de Taillebourg, qui est célèbre. Il y a une rue à Paris, la rue de Taillebourg. Il y a une caserne à Sainte, l'ancienne abbaye aux Dames, enfin l'abbaye aux Dames qui a été transformée en caserne pour le 6e régiment d'infanterie, qui depuis 1887 porte le nom de caserne Taillebourg. C'est quelque chose, comme vous allez le voir, qui était très célèbre, mais qui était la réalité de la bataille a été mise en doute en 1892, comme je vous le montrerai tout à l'heure, par un historien médiéviste qui en a nié l'existence. Et depuis cette date, traditionnellement, tous les médiévistes historiens professionnels, y compris les plus récents historiens de Saint-Louis, comme Jacques Leboeuf, ont eu une attitude prudente et ont considéré que cette bataille n'avait peut-être pas eu lieu, ou tout au moins que probablement l'engagement personnel de Saint-Louis dans cette bataille était discutable. Donc nous sommes devant un problème historiographique, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, la manière dont on l'écrit, qui est extrêmement intéressant. Comment cette bataille de Taillebourg, qui est inconnue au Moyen-Âge, comme je vais vous le montrer, aucun texte médiéval, aucune chronique médiévale ne cite la bataille de Taillebourg. La bataille de Taillebourg n'apparaît dans l'historiographie, c'est-à-dire dans les textes imprimés, qu'au XVIe siècle. Elle devient de plus en plus célèbre au XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe siècle. Elle est mise en cause à la fin du XIXe siècle par Charles Bémont. Donc nous sommes dans un problème extrêmement intéressant. Parce que comment écrit-on l'histoire? Avec quel genre de source écrite? Puisque c'est avec ça que jusqu'à une date récente, on l'écrivait. Maintenant, on utilise de plus en plus l'étude des monuments ou l'archéologie pour écrire l'histoire. Et je vous montrerai que dans le cas de la bataille de Taillebourg, l'utilisation de la connaissance du site et de la connaissance de la Charente telle qu'elle était au XIIIe siècle est importante. Et c'est quelque chose qui n'était pas utilisé par mes prédécesseurs du XIXe et même du XXe siècle. Donc je vais vous montrer comment on écrit l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une source, comment peut-on l'utiliser, et pourquoi écrit-on l'histoire. Et en particulier, pourquoi les historiens depuis le XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe ont-ils mis en avant la bataille de Taillebourg? Pour des raisons, je vous montrerai, qui sont purement idéologiques. En grande partie. Alors d'abord, première chose, que savons-nous de la bataille de Taillebourg au Moyen-Âge? Nous avons, pour nous documenter sur la bataille de Taillebourg, deux sources, les chroniqueurs anglais et les chroniqueurs français, qui racontent la bataille. Donc du côté anglais, le chroniqueur qui est le plus prolixe, celui qui en parle le plus, pas de Taillebourg, mais de la campagne que conduit le roi de France contre le roi d'Angleterre au printemps et au début de l'été 1242, le chroniqueur anglais qui en parle le plus, c'est Matthew Paris. Matthew Paris a écrit sa chronique en anglais, en latin, et il consacre, alors il faut bien voir ce que sont la longueur des textes, dans la version imprimée de cette chronique imprimée au XIXe siècle, l'ensemble de la campagne du mois d'avril au mois de juillet 1242 représente 3 pages imprimées. Pour raconter la prise de 12 châteaux et la bataille de Sainte, qui elle est certaine, le 22 juillet. Donc c'est très court. Ça, c'est la chronique de Matthew Paris. Les chroniqueurs français qui ont écrit, eux, sur la bataille de Taillebourg sont encore plus sommaires. Le principal chroniqueur qui évoque la campagne de 1242, c'est un dominicain, qui s'appelle Vincent de Beauvais. Et dans l'édition de sa chronique manuscrite, qui était éditée au XVIIe siècle, il consacre à l'ensemble de ces 4 mois de campagne une demi-page. C'est un contemporain. Il y consacre une demi-page. Et les autres chroniqueurs de son époque, c'est-à-dire Guillaume de Nangis, qui est un moine de l'abbaye de Saint-Denis, historiographe officiel du roi, c'est-à-dire qui écrit l'histoire officielle de la monarchie, Guillaume de Nangis consacre à cette campagne à peine plus, c'est-à-dire une demi-page, dans la version imprimée. À partir de ces chroniques françaises, Vincent de Beauvais, Guillaume de Nangis, un autre moine de Saint-Denis qui s'appelle Prima, a écrit en 1274 un texte qui va devenir célèbre et qui s'appelle « Les grandes chroniques de France ». Ce sont les miniatures que vous avez actuellement projetées, sont des miniatures qui illustrent des manuscrits des grandes chroniques de France. Les grandes chroniques de France ont été écrites à l'abbaye de Saint-Denis à partir de la fin du XIIIe siècle par les moines qui vont écrire l'histoire officielle de la monarchie. Ce sont les historiographes officiels. Donc ils vont écrire pour chaque règne 10 pages, 20 pages, 30 pages. Et donc nous avons des centaines de manuscrits des grandes chroniques de France qui s'alourdissent, qui s'agrandissent au fil des règnes et qui racontent cela. Donc pour ce qui concerne la campagne de Saint-Onge, Saint-Louis contre Henri III, dans les grandes chroniques de France, ce texte a donc été réécrit par Prima en 1274 à partir de Vincent de Beauvais et de Guillaume de Nangis. Alors je vais vous lire le texte des grandes chroniques de France, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais je vais vous lire le texte des grandes chroniques de France qui concerne la bataille éventuelle de Taillebourg. Alors donc le roi de France est arrivé ici à Taillebourg le 20 juillet. Le roi d'Angleterre, qui était à Saintes, est venu de l'autre côté du pont, et les deux armées sont face à face avec le pont entre les deux. Et voilà ce qu'écrit les grandes chroniques de France, donc le texte officiel qui va être, si vous voulez, pour tout le Moyen-Âge, ce qu'on sait sur cette campagne. Quand les Français aperçurent l'os, c'est-à-dire l'armée des Anglois, retraire arrière, c'est-à-dire le roi d'Angleterre estime qu'il est en danger, donc il fait reculer son armée sur l'autre rive de la Charente. Quand les Français aperçurent l'os des Anglais retraire arrière, s'y envoyèrent 500 sergents hâtivement pour passer au pont que le roi avait fait dressier, et avec eux, grands plantiers, c'est un grand nombre, d'arbalestriers et autres gens de pied. Saint-Louis était effectivement devant le pont Pierre qui était ici, mais pour prendre à revers le roi d'Angleterre, il avait fait construire depuis deux jours un pont de bois pour que ses hommes d'armes traversent et fassent un mouvement tournant pour prendre l'armée anglaise à revers. Alors je vous reparlerai tout à l'heure de ce problème de ce pont de bois qui pose un problème extrêmement intéressant de localisation. Donc le comte Richard, c'est-à-dire le frère d'Henri III, vit que les Français passaient le pont, c'est-à-dire le pont de Taillebourg et le pont de bois, sans contredit, s'y mit juste, c'est-à-dire mit bas ses armes, et s'en vint vers eux et leur montra signe de paix et leur pria qu'ils le fissent parler au comte d'Artois, c'est-à-dire le frère de Saint-Louis, pour les deux rois s'accorder ensemble sans faire bataille. Mais le comte d'Artois n'y voulut point aller devant, ce qu'il en eut congié de son frère le roi. C'est-à-dire que le frère, le comte d'Artois, refuse de faire une trêve avec les Anglais sans l'accord de son frère le roi de France. Quand le comte Richard vit qu'il ne pourra parler au comte d'Artois, il s'en retourna vers l'autre roi d'Angleterre. Droitement, le jour de la Madeleine, le roi, c'est le roi de France, et son hoste passèrent la rivière de Carente par le pont que le roi avait fait faire, et se retourna arrière de Taillebourg par le conseil de sa gens, tantôt comme il fut passé, les fourriers, c'est-à-dire les hommes qui approvisionnent l'armée, coururent vers Saint en dégastant tout ce qu'ils trouvèrent. Voilà le récit officiel dans les grandes chroniques de France de la présence de Saint-Louis à Taillebourg. Aucune mention d'un passage en force de la rivière de Charente. Rien. Aucune mention d'un combat, aucune mention. Il est simplement dit que les Anglais demandent une trêve, qu'elle leur est refusée, qu'ils battent en retraite et que l'armée française traverse les deux ponts, le pont de bois que le roi de France vient de faire construire et le pont de pierre. Voilà l'histoire officielle de la monarchie et de la bataille de Taillebourg qui donc n'existe pas. Alors, vous avez ici quatre miniatures qui illustrent des grandes chroniques de France. La miniature qui est en haut à gauche, c'est l'exemplaire personnel de Charles V, qui est mort en 1380, c'est un exemplaire qui était enluminé par lui-même, enfin sous sa direction, entre 1375 et 1380. Cet exemplaire des Grandes Chroniques de France, c'est un exemplaire célèbre, c'est une des plus beaux exemplaires des Grandes Chroniques de France. Il était dans la chambre de Charles V au donjon de Vincennes. Et vous avez en haut, ici, la scène qui représente une bataille. Si vous allez sur la base informatique Mandragore, qui est la base de la Bibliothèque nationale de France, qui vous permet de consulter les manuscrits à peinture. Vous verrez que cette miniature est légendée « Bataille de Taillebourg ». Or, dans le texte des Grandes Chroniques que je viens de vous lire, il n'y a aucune mention de la bataille de Taillebourg. Il est simplement dit que l'armée française traverse et que le lendemain, elle se bat contre les Anglais de Vincennes et qu'elle les bat. Mais les archivistes des Bibliothèques nationales de France, influencées par l'historiographie, ont intitulé cette miniature Bataille de Telgour. Alors que vous voyez, c'est une scène, vous la voyez mal parce qu'elle est toute petite, mais c'est une scène banale, stéréotypée comme on les fait dans les miniatures du XIIIe et du XIVe siècle. Vous avez d'un côté une armée, de l'autre côté une autre armée, des hommes à cheval, des lances, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de fond. Bon, vous avez sur le côté en haut à droite une miniature de la fin du XVe, début XVIe, qui est sur le base Mandragore de la Bibliothèque nationale de France, intitulée Bataille de Telgour. Toujours une illustration des grandes chroniques. Mais vous voyez qu'il s'agit d'hommes et d'hommes d'armes qui sont devant une ville fortifiée. Les villes fortifiées, vous les avez ici. Ils sont ici dans la plaine. Aucune rivière, aucun pont. Donc, intituler cela Bataille de Telgour est, comme précédemment, une erreur. C'est la bataille de Saintes du 22 juillet qui est représentée, pas la bataille de Telgour. Vous avez en bas, ici, à gauche, une autre enluminure d'une grande chronique de France qui date de 1484. Dans la base Mandragore, bataille de Telgour. Bon, c'est pas possible, vous voyez, on a une ville fortifiée, le roi de France, qui reçoit un hommage, on le reconnaît à son vêtement, ses chevaliers qui sont devant lui, aucun pont. Et vous avez enfin, sur le côté en bas à droite, une enluminure des années 1515-1520, pour un livre des grandes chroniques de France enluminé pour François Ier, intitulé de la même manière sur la base Mandragore, bataille de Telgour. C'est clair que ce n'est pas la bataille de Telgour, il n'y a pas de rivière. Donc vous voyez comment, même actuellement, l'historiographie de la bataille de Telgour, constituée à partir de rien, arrive à inciter mes collègues bibliothécaires des Bibliothèques nationales de France à qui j'ai signalé le problème, à légender ces miniatures qui accompagnent un texte qui n'évoque pas la bataille. Ce qui est quand même paradoxal. Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, quand on met une miniature, il n'y a pas de légende. Hein, c'est-à-dire, c'est pas comme nous quand on fait une photo. Vous avez un titre de chapitre, et puis il y a une miniature. Donc, pour comprendre ce qu'elle représente, il faut lire le texte. Et dans le texte, il n'y a pas de bataille de Telgour. Donc, c'est clair que ça ne peut pas être la bataille de Telgour. Alors, là-dessus, ça c'est la première source classique. Donc, une bataille qui n'existe pas au Moyen-Âge. Alors, au XVIe siècle, paraît un ouvrage que je vous ai reproduit ici. Je ne suis pas sûr que vous arriviez bien à le voir, mais bon. Il y a un peu trop de lumière. C'est la première édition de la vie de Saint-Louis, écrite par Joinville. Elle a été éditée pour la première fois en 1547. Elle a été rééditée plusieurs fois jusqu'en 1666. Je vais vous montrer toutes les éditions imprimées de la vie de Saint-Louis par Joinville. Ce sont des éditions de ma bibliothèque personnelle. J'ai toutes les éditions de la vie de Saint-Louis par Joinville depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, sauf une que je n'arrive pas à trouver. C'est une édition de 1609 qui est rarissime. Donc, cette édition est la première, 1547. Là, c'est l'exemplaire de réédition de 1596. Donc, ce texte que je vais vous lire, on ne sait pas d'où il vient. L'auteur qui l'a publié en 1547 dit qu'il a utilisé un vieux manuscrit qu'il a trouvé dans les archives du roi René à Nantes et qu'il publie. Bon, le problème, c'est que la relation que nous avons de la bataille de Telgour, d'après Joinville, est extrêmement sommaire. Le texte édité est très mauvais et nous n'avons pas de manuscrit. Alors, je vous rappelle qui était Joinville. Joinville était le sénéchal de Champagne, c'est-à-dire le responsable des armées de Champagne. Le comte de Champagne était un des grands vassaux du roi de France. Le comte de Champagne accompagnait Saint-Louis avec tout le contingent féodal. Il était ici, à Telgour. Et Joinville, qui à l'époque devait avoir une dizaine d'années, 11 ans, est l'homme qui a accompagné Saint-Louis pour sa première croisade en 1248, qui restait avec lui en Terre Sainte jusqu'en 1254. Il a refusé d'accompagner Saint-Louis pour sa deuxième croisade en 1270, et en 1305, la femme de Philippe le Bel lui a demandé, alors qu'il avait plus de 80 ans, d'écrire la vie du Saint-Roi. Saint-Louis avait été canonisé en 1297, et son petit-fils, Philippe le Bel, avait une dévotion maladive pour son grand-père. Et il a donc demandé à Joinville, qui était pour l'époque un homme d'un âge canonique, plus de 80 ans au début du XIVe siècle, c'était tout à fait exceptionnel. On a donc demandé à Joinville, à une époque où la dévotion pour le Saint-Roi était très forte, sous l'impulsion de Philippe le Bel, d'écrire cette vie. Et Joinville, je vous montrerai tout à l'heure le manuscrit, a terminé la vie de Saint-Louis en 1309. Et en 1309, il l'a remis au fils aîné du roi, de Philippe le Bel, Louis, qui va devenir Louis X après la mort de Philippe le Bel, en 1314. Donc voilà ce qu'écrit Joinville, non pas dans l'édition de 1547, mais dans les autres éditions, bon, que je vous lirai le texte tout à l'heure. Alors nous avons donc, au XVIe siècle, au XVIIe, une édition extrêmement mauvaise, qui passe inaperçue. C'est-à-dire qu'elle a été éditée, elle a été lue, mais les historiens du XVIe et XVIIe siècle ne l'ont pratiquement pas utilisée. En 1768, paraît une nouvelle édition de la vie de Saint-Louis, que vous avez ici. Alors c'est un ouvrage in folio qui est grand comme ça, épais comme ça, qui a été écrit par un érudit médiéviste célèbre qui s'appelle Ducange, qui est l'auteur d'un dictionnaire du latin médiéval qui reste le dictionnaire du latin médiéval utilisé par les historiens médiévistes actuels. Ducange édite en 1668 la vie de Saint-Louis par Joinville d'après l'édition de 1547 et une autre édition de 1629 en expliquant qu'il n'a pas les manuscrits, qu'il ne sait pas comment était le texte qui avait été édité au XVIe, XVIIe, que le texte est fautif, qu'il y a plein d'erreurs, que le français est un français modernisé, etc. Donc il essaye de reconstituer une bonne version de ce que devait être le manuscrit original, qu'il ne l'a pas. Alors Ducange était à l'époque un érudit respecté. C'est un des plus grands médiévistes, c'est un des pères fondateurs de l'histoire médiévale. Et l'ouvrage de Ducange, vous avez sur le côté ici le texte reconstitué par Ducange, va lui, par contre, faire énormément de bruit à son époque. Et notamment, il va conduire Louis XIV à prendre plusieurs décisions fondamentales pour le culte de Saint-Louis. D'abord, il va décider, Louis XIV, que tous les ans, le 25 août, un prédicateur célèbre prononcera un panégyrique, c'est-à-dire un éloge de Saint-Louis, le 25 août, le jour de la Saint-Louis, dans la chapelle du Louvre, construite par Saint-Louis, devant les académiciens. Et nous avons ces panégyriques depuis 1689 jusqu'à la Révolution, et ils vont reprendre la Restauration jusqu'en 1829, tous les ans. Et donc, quand on lit ces panégyriques, j'en ai une collection, on voit que les prêtres, qui sont souvent des évêques, qui prononcent ces panégyriques, présentent Saint-Louis comme un roi militaire, en rupture complète avec la tradition depuis la canonisation de Saint-Louis. On présentait Saint-Louis comme un roi chrétien qui avait aidé à la fondation du monastère. Là, les panégyriques présentent Saint-Louis comme un roi militaire. Et il s'appuie sur deux batailles, Taillebourg et la Mansoire, qui est une bataille pendant la première croisade. Et en fait, à l'origine de cette nouvelle image de Saint-Louis, il y a le texte de Ducange que vous avez sous les yeux. Et donc, on est devant un changement complet. Mais on n'a pas un texte de qualité. Voilà par exemple un exemplaire des textes des panégyriques. Donc là c'est un recueil de 1814 qui contient toute une série de panégyriques prononcées le 25 août dans la chapelle du Louvre devant les académiciens par des prédicateurs célèbres de l'ancien Égypte. Mais j'en ai en général une petite plaquette pas très épaisse qui est éditée. Mais au milieu du XVIIIe siècle se produit un événement particulier. L'armée française, qui est en expédition militaire en Belgique, pille le palais royal de Bruxelles et dans les caves trouve un coffre rempli de manuscrits, qui est emporté à la bibliothèque royale à Paris, et dans lequel on trouve ce manuscrit que vous avez ici. Ce manuscrit est étudié par les érudits de l'époque et on s'aperçoit que c'est le texte de la vie de Saint-Louis par Joinville dans un manuscrit du XIVe siècle. Alors, c'est pas le manuscrit qui a été donné au prince Louis, futur Louis X, en 1309, parce que les miniatures que vous avez là la scène qui montre Joinville à genoux, remettant son manuscrit au jeune Louis. Ces miniatures datent des années 1330-1340, donc ce n'est pas le manuscrit original. Mais on sait qu'il y avait dans la bibliothèque royale de Charles V en 1373, on a l'inventaire, on sait qu'il y avait trois manuscrits de la vie de Saint-Louis par Joinville, trois. Et ce manuscrit est un des trois manuscrits. C'est donc un manuscrit royal. Il était à la bibliothèque de Charles V du Louvre. Les deux autres manuscrits ont disparu. Mais dorénavant, ce manuscrit retrouvé au XVIIIe siècle va être la base de l'étude scientifique de la vie de Saint-Louis écrite par Joinville. Alors, il faut s'interroger, pourquoi ce manuscrit n'était-il pas connu? Eh bien, tout simplement, parce que ce manuscrit, le texte de la vie de Saint-Louis par Joinville, a été commandé par la reine de France au Sénéchal. Et ce texte est resté un texte familial. Les rois de France ont gardé les manuscrits, l'ont fait recopier, puisque ce manuscrit n'est pas le manuscrit de 1309, c'est un manuscrit un peu postérieur, ils l'ont fait recopier, mais ce texte est resté dans la bibliothèque royale. L'histoire officielle, ce sont les grandes chroniques que je vous ai lues. Ça, c'est une histoire familiale destinée à la famille royale. Alors, je vais vous lire la manière dont Joinville raconte la bataille de Taillebourg, puisque lui l'évoque. Je me suis un peu emmêlé dans mes papiers, je ne retrouve plus le texte. Bon, je vais le retrouver en continuant mon exposé. Donc le texte de Joinville, que je vais vous retrouver et vous lire, est un texte extrêmement court. Il faut bien voir que sa relation qu'il fait de la bataille de Taillebourg, que cette fois il cite, est un texte de quelques lignes. De quelques lignes. Et en fait, c'est la seule relation que nous ayons de cette bataille. Alors, après que le roi fut revenu de Poitiers, si vous voulez, l'armée française arrive de Chinon où elle s'est rassemblée. Bon, je vais abréger. Le roi d'Angleterre et le comte de la Marche vinrent là pour livrer bataille au roi de France, devant un château que l'on appelle Taillebourg, qui est bâti sur une mauvaise rivière. Mauvaise, ça veut dire dangereuse, hein, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Mauvaise rivière, que l'on appelle Charente, à un endroit où on ne peut passer que par un pont de pierre très étroit. Notez bien l'expression très étroit, hein, qu'utilise Joinville. Aussitôt que le roi arriva à Taillebourg, c'est-à-dire Saint-Louis, et que les armées furent en vue l'une de l'autre, nos gens, qui avaient le château de leur côté, c'est-à-dire qu'ils étaient là où nous sommes, firent tout ce qu'ils purent à grand-peine, et passèrent en prenant de grands risques avec des bateaux et sur des ponts, et attaquèrent les Anglais, et l'engagement commença vif et rude. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que les chroniqueurs français et anglais racontent, que le roi de France était ici, mais qu'il avait fait construire un pont de bois pour prendre à revers les Anglais. Quand le roi, c'est le roi de France, vit cela, il s'exposa avec les autres. Et voilà le récit de la bataille de Taillebourg. Car pour un homme que le roi avait, quand il passa du côté des Anglais, les Anglais en avaient 1000. Toujours est-il, comme Dieu le voulut, que lorsque les Anglais virent le roi passer la rivière, ils perdirent courage et se jetèrent dans la Charente, dans la cité de Saintes, et plusieurs de nos gens entrèrent dans la cité, mêlés avec eux et furent pris. Voilà la bataille de Taillebourg. S'incline. Mais là, nous avons pour la première fois la mention d'un combat sur le pont de Taillebourg et la mention de l'engagement personnel de Saint-Louis. Et ce texte, c'est le seul texte qui parle du combat sur le pont et c'est le seul texte qui parle de l'engagement personnel du roi de France. Donc, quand il est édité, quand ce manuscrit est trouvé en 1755, il est édité dès 1761. Vous avez là l'édition et sur le côté, la page avec le texte que je viens de vous lire. Donc, si vous voulez, l'édition de ce texte était une grande aventure politique. C'est-à-dire, c'est le roi de France, c'est-à-dire Louis XV à l'époque, qui a ordonné l'apparition de ce texte, pour des raisons évidentes. Hein, c'était la famille, il fallait magnifier la famille et surtout, c'était un roi qui s'appelait Louis, hein, comme Louis XIV, comme Louis XV. Donc, cette édition de la vie de Saint-Louis est la première édition scientifique avec un manuscrit. Qui reste le seul manuscrit, même encore maintenant. Donc c'est un bouquin in-folio, qui est grand comme ça, qui fait 700 pages, avec une étude extrêmement poussée du texte, la publication d'autres textes concernant Saint-Louis, la croisade et d'autres épisodes de la vie de Saint-Louis, un glossaire, une grammaire, etc. etc. Bon, c'est une édition de qualité qui est dépassée, parce qu'on a d'autres éditions plus récentes, mais c'est une édition de grande qualité, qui a été très importante. Et à partir de ce moment-là, entre l'édition de Ducange en 1668 et cette édition en 1761, cette fois, le culte de Saint-Louis est lancé avec vigueur. En 1766 paraît cet ouvrage, qui est un ouvrage à destination de l'élite intellectuelle de l'époque, qui est fait par un prêtre sur la vie de Saint-Louis, qui résume la vie écrite par Joinville, qui présente d'autres traits de la vie de Saint-Louis, et qui est en fait à la base des anecdotes. Vous avez en particulier ici la première représentation de Saint-Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes. Si vous voulez, Joinville a légué à l'histoire de France deux grandes anecdotes concernant Saint-Louis, la bataille de Taillebourg et la justice sous le chêne de Vincennes. Et vous avez là, vous voyez sur le côté, ici, le donjon de Vincennes, qui est postérieur d'un bon siècle à Saint-Louis, mais qui est représenté ici. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons toute une série d'auteurs qui vont écrire des histoires de Saint-Louis en utilisant l'édition de 1761 de la vie de Saint-Louis. Ça va devenir, si vous voulez, un exercice littéraire de la fin de l'Ancien Régime, des histoires de la vie de Saint-Louis. Arrive la Révolution et l'Empire. À la Restauration, sous Louis XVIII, il n'y a rien de particulier. Mais dès que Louis XVIII meurt et que Charles X devient roi de France en 1824, il y a ce qu'on appelle la réaction monarchiste. Et à ce moment-là, un grand nombre d'historiens monarchistes, légitimistes, se mettent à publier des éditions de la vie de Saint-Louis en réutilisant les éditions antérieures. Donc vous en avez ici trois, hein, que j'ai dans ma bibliothèque, l'une de 1825, une de 1826 et une autre de 1826. Elles sont toutes dans l'année qui suit le sacre de Charles X en 1824. Et j'en connais une vingtaine d'ouvrages publiés en moins de 10 ans sur Saint-Louis, sur la vie de Saint-Louis d'après Joinville. Donc si vous voulez, cette fois, Saint-Louis, depuis Louis XIV et l'édition de 1668, était un roi militaire et vainqueur, ce qui correspondait bien au début du règne de Saint-Louis, de Louis XIV. L'ordre militaire de Saint-Louis, créé en 1693, est un ordre prestigieux donné aux militaires. Donc il associe Saint-Louis à des victoires. Alors que sous la Restauration, à partir de 1824, Saint-Louis devient un roi chrétien. Et donc vous avez toute cette littérature qui fleurit. Et apparaît ensuite un certain nombre d'histoires de France, notamment celle de Michelet en 1833, celle de Victor Duruy, celle d'Henri Martin, qui sont des histoires de France en X volumes, qui vont être très utilisées par tous les érudits, tous les notaires, tous les avocats du XIXe siècle avaient l'histoire de France d'Henri Martin, celle de Victor Duruy, etc., dans lesquelles il y a systématiquement une page sur la bataille de Taillebourg. Donc elle entre dans l'historiographie républicaine. Et quand, en 1836, Louis-Philippe, roi de France, qui vient de sauver le château de Versailles, décide de créer à Versailles un musée des croisades et de l'histoire de France, il commande à Delacroix plusieurs tableaux, trois tableaux de bataille, la prise de Constantinople, l'entrée de Saint-Louis à Damiette et la bataille de Taillebourg. Il s'inspire de toute l'historiographie qui a mis en avant cette bataille et il commande ce grand tableau célèbre. Donc vous avez ici des esquisses qui est au musée du Louvre, qui est assez petite, qui fait moins d'un mètre de côté, avec, vous voyez, des très belles tours derrière qui sont probablement censées être les tours du château de Taillebourg, puisque vous voyez, le roi de France ici sur son cheval blanc. Alors bon, c'est un peu tordu, puisque le pont est derrière lui, le château est là. Enfin bon, ça ne peut être que les tours de Taillebourg. Et là, vous avez le tableau définitif, les tours ont disparu. Le tableau de la croix, bon, c'est un grand tableau de l'école française de cette époque. Il va avoir une très forte impression. Il ne va faire naturellement que renforcer la dévotion au Saint-Roi et le mythe de la bataille de Taillebourg. Alors vous avez, bon, je me suis amusé à mettre quelques petites images populaires qui montrent le mythe de la bataille de Taillebourg dans l'historiographie. Vous avez ici les images qu'on distribuait dans les écoles. Donc vous avez là, inspiré très clairement de Delacroix. Vous connaissez ici, par exemple, vous voyez la rambarde de Dupont, cassée. Vous l'avez là, avec le cheval blanc, la même position du cheval. Et vous avez autour de cette image d'école, vous avez le commentaire. Vous avez là une petite image comme on en mettait il y a quelques décennies dans les tablettes de chocolat et autres. Donc j'en ai un certain nombre comme ça qui montrent que même, si vous voulez, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même après, la bataille restait quelque chose de très classique. Et dernier exemple, cette enveloppe premier jour de la Poste en 1967 avec la bataille de Taillebourg d'un côté et le chêne de Saint-Louis à Vincennes. Les deux anecdotes de Joinville qui servent à illustrer Une enveloppe, premier jour, en 1967. Donc, nous sommes devant quelque chose de, qui est resté jusqu'à une date récente, de très populaire. Alors, en même temps, l'historiographie de la bataille de Talbourg est entrée dans l'historiographie régionale. C'est-à-dire que les historiens régionaux vont s'en emparer. Alors, la base de l'historiographie régionale, c'est l'ouvrage de Daniel Massieu, l'histoire de la Saintonge, en 6 volumes, qui est publié entre 1836 et 1840. Dans le tome 2, Massieu raconte la bataille de Talbourg, et il reprend naturellement Joinville, il la raconte en détail. Et à ce moment-là, on a un phénomène de récupération de Talbourg et de sa bataille par les milieux légitimistes et catholiques de Saintes, et notamment la curie et quelques autres érudits locaux, qui vont, en 1849, demander l'érection ici à Talbourg d'un premier monument commémoratif. Le gouvernement de l'époque refusera, mais ils feront ce monument sur l'autre rive de la Charente et ils vont l'inaugurer en 1851. Et ce monument sera détruit en 1888 quand le pont va être reconstruit et inauguré en 1891. Et un professeur d'histoire du collège de Saintes, Henri Feuilleret, va publier en 1851 la première plaquette éditée dans la région sur la bataille de Talbourg. Il va en rééditer une deuxième en 1860, que vous avez ici, les premières armes de Saint-Louis, où il raconte la campagne de Saint-Onge. Donc cette fois-ci, si vous voulez, le mythe de la bataille de Talbourg est entré dans l'historiographie locale, mais devient un thème d'affrontement politique. Et en 1892, quand la Société des archives historiques de la Saint-Onge et de l'ONIS décide de faire un monument, qui est le monument actuel, il y a un conflit politique entre le maire de Talbourg, qui est radical, et les organisateurs de la cérémonie. Notamment, le maire va recommander aux habitants de Talbourg, puisqu'il y a une procession qui traverse le pont, qui vient d'être inaugurée, il va leur recommander de fermer leurs fenêtres et de ne pas pavoiser, contrairement à ce qu'avaient demandé les organisateurs. Quand on lit les quotidiens locaux, quand on connaît leurs opinions politiques, légitimistes, ou républicaines, ou radicales, on voit que cette inauguration du monument a donné lieu à une bataille politique extrêmement forte, hein, entre la gauche et la droite légitimiste. Pourtant, dès 1887, la République avait baptisé l'abbaye aux dames qui servait de caserne, avait baptisé caserne de Talbourg. Vous avez là deux cartes postales qui montrent l'abbaye aux dames à l'état de caserne. Et vous avez ici le monument, donc une carte postale qui est très, très connue, qui vous montre ici le monument, inauguré en 1892, son état actuel, et ici son inscription. Alors ce qui est très drôle, c'est que cette inscription est erronée. Il est dit dans l'inscription, en latin, donc vous avez la traduction en dessous, que la bataille a eu lieu le 22. Or, c'est complètement faux. Tous les auteurs, qu'ils évoquent ou non la bataille de Talbourg, aussi bien le Mathieu Paris, chroniqueur anglais, que les chroniqueurs français, disent tous que l'armée royale française traverse le pont la veille de la fête de la Madeleine et affronte l'armée anglaise sous les murs de Saintes le jour de la Madeleine. La Madeleine, c'est le 22 juillet. Donc il n'y a pas de problème, l'armée française a traversé le pont de Talbourg le 21. Et depuis, malgré cela, sur le monument de 1851 et sur le monument de 1892, la date est erronée. Et j'ai même lu récemment dans un article d'Aquitania des auteurs qui continuaient à utiliser le 22 juillet. Ce que je trouve assez drôle, je trouve aucun problème. La bataille a eu lieu la veille de la Madeleine, donc le 21. Alors, là-dessus, donc, dernier point pour finir sur l'historiographie de la bataille avant d'essayer de vous dire ce que je pense sur sa réalité ou non. En 1874, un grand érudit médiéviste, Nathalie de Vailly, publie la première édition depuis 1761 du manuscrit de la Bibliothèque nationale, le manuscrit 13568, celui pris à Bruxelles par l'armée française et apporté à Paris. Donc vous avez ici la page de couverture et la reproduction de la page du manuscrit, et là le texte de Joinville. Donc l'édition de Nathalie de Vailly, en 1874, elle a été très longtemps rééditée et elle est restée l'édition de base de la vie de Saint-Louis jusqu'en 1995. Quand Jacques Monfrin, qui est un érudit qui est mort il y a quelques années, spécialiste de philologie et de langue française du Moyen-Âge, a republié dans la collection des classiques Garnier, une collection élémentaire, il a republié la vie de Saint-Louis en 1995. Bon, c'est l'édition la plus commode, parce que le bouquin de Nathalie Devailly est un bouquin infolio, il fait comme ça, très lourd, magnifique, c'est un bouquin somptueux pour l'époque. On ne le trouve qu'en version, comme ça c'est mon exemplaire personnel, on ne le trouve qu'en version reliée cuir, à dos nervuré, etc. Il y a des chromolithographies en couleur, c'est un bouquin extrêmement coûteux pour l'époque, donc un bouquin de luxe, hein, qui a été clairement fait par les légitimistes. Ça, c'est très clair. Mais c'est un bouquin d'une très grande qualité scientifique. Voilà donc l'histoire de, si vous voulez, en quelque sorte, du texte. Donc, je vous résume. Les chroniqueurs du Moyen-Âge ne connaissent pas la bataille de Taillebourg. Joinville en parle, mais le texte de Joinville est inconnu avant, en fait, pratiquement l'édition de 1668 par Ducange. À ce moment-là, on a un culte de Saint-Louis militaire qui se développe, puis un culte de Saint-Louis à la Restauration au XIXe, Saint-Louis roi catholique. Il entre néanmoins dans la tradition républicaine, la caserne de Taillebourg de Sainte le montre, et il reste, si vous voulez, ça reste une bataille connue jusqu'à nos jours. Seulement en 1892, l'année même où le monument de Sainte était inauguré, un médiéviste qui s'appelle Charles Bémont, qui est un médiéviste de très grande qualité, publie, à l'occasion du 650e anniversaire de la bataille, un article où il explique que la bataille de Taillebourg n'a jamais eu lieu. Et il donne des arguments, et ses arguments principaux sont les suivants. Il dit d'abord qu'elle n'est connue que par un seul auteur, Ducange, Joinville, et que, bon, il est classique qu'un historien, surtout quand il s'agit d'un problème de ce type, est réticent quand il n'y a qu'un seul texte pour évoquer un événement de ce type. Et Bémont fait remarquer qu'il est étonnant que les chroniqueurs français n'évoquent pas l'engagement personnel du roi. Bon, le second argument que donne Bémont pour mettre en cause la bataille, c'est l'âge de Joinville. Il explique que Joinville avait à l'époque 11 ans, et qu'il explique, par la vie de Saint-Louis lui-même d'ailleurs, qu'il n'a commencé à porter le haubert, c'est-à-dire à porter l'armure, que 3 ans plus tard, 3 ans après la bataille. Donc, il n'était pas, bien que il était quand même sénéchal du comte de Champagne, donc responsable de ses armées à 11 ans, mais Bémont dit qu'il ne portait pas le haubert, donc il n'était pas à la bataille, donc ce qu'il raconte n'est pas crédible. Donc l'article de Bémont, parce que c'était Bémont, parce que c'est un grand médiéviste, spécialiste du XIIIe siècle, a été accepté par tous les historiens médiévistes jusqu'à une date récente. Et si vous lisez la vie de Saint-Louis de Jacques Le Goff en 1996, celle de Jean Richard quelques années avant, vous verrez que tous sont extrêmement prudents sur la bataille. Ils évoquent l'itinéraire de Saint-Louis, ils disent qu'il passe à Taillebourg, mais ils ne parlent pas de bataille. Ils parlent de la bataille de Sainte du 22 juillet qui, elle, est attestée dans les sources anglaises et françaises. Jamais de la bataille de Taillebourg. Voilà donc la situation. Nous avons une bataille qui n'existe pas au Moyen-Âge, qui n'existe qu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe, et qui est nié par les historiens médiévistes spécialisés depuis plus d'un siècle. Voilà le problème. Donc, comment peut-on... Ben d'abord, est-ce qu'on peut reprendre le problème? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut légitimement s'interroger sur un événement de ce genre? Je pense que oui, c'est le métier des historiens de revoir les hypothèses et les affirmations de nos prédécesseurs. Mais la deuxième obligation que nous avons, l'obligation que nous avons si nous remettons en cause la vision de Bémont, c'est d'apporter des arguments nouveaux. Ces arguments ne peuvent pas venir des sources écrites, puisque les sources écrites, nous les connaissons toutes maintenant. Nous ne découvrons pas d'autres sources originales du XIIIe siècle évoquant la bataille. Nous pouvons relire les sources écrites autrement que nos prédécesseurs, notamment le texte de Joinville. Essayer de voir dans le texte de Joinville des choses que nos prédécesseurs n'ont pas vues. Mais nous pouvons aussi utiliser, pour comprendre, d'autres éléments. Et ces éléments, c'est d'abord l'itinéraire des deux rois. Où étaient-ils, à une date précise, dans la période qui précède la bataille? Comment s'est fait la campagne de Saint-Louis, c'est-à-dire comment une armée, comme l'armée du roi de France, entre-t-elle en guerre et se bat-elle contre le roi d'Angleterre? Et enfin, compte tenu de l'état des lieux, c'est-à-dire de la nature de la Charente, de la localisation des châteaux, de la présence du lieu où se trouvait le roi d'Angleterre, comment Saint-Louis a-t-il conduit sa campagne, et est-ce que, effectivement, Taillebourg était un enjeu stratégique fondamental pendant cette campagne? Ça, c'est quelque chose que nos prédécesseurs n'ont jamais fait. Jusqu'à une date récente, on écrivait l'histoire des batailles. Il y a toute une une histoire, si vous voulez, de France, depuis le XVIIe siècle, qu'on appelle l'histoire bataille. Il y a des auteurs d'Ancien Régime qui ont écrit des ouvrages entiers sur les grandes victoires des Français. Où d'ailleurs la bataille de Caillebourg apparaît vers 1650. Elle n'y est pas avant, puis à partir de 1650, il y a la bataille de Caillebourg dans les grandes victoires des Français, écrites en général par des prêtres du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on peut se demander, on peut se poser des questions sur cet angle. On va reprendre le problème, les problèmes militaires et autres. Alors, voilà comment les choses se présentent. Nous savons que le roi d'Angleterre a débarqué à Royan le 13 mai 1242. Nous connaissons très bien son itinéraire, parce que dans tous les lieux où il se trouve, il passe des actes. Et quand il passe un acte, en bas de l'acte, il y a ce qu'on appelle techniquement, dans le langage des médiévistes, une date de lieu, c'est-à-dire le lieu où se trouve le roi et le jour où il passe l'acte. Donc le roi d'Angleterre, ou le roi de France d'ailleurs, met la base de son acte à Saintes, le 13 juin 1242. C'est ce qu'on appelle une date de lieu. Donc avec cela, on peut reconstituer l'itinéraire. Donc le roi d'Angleterre arrive à Royan le 13 mai, il va à Pons, il y reste jusqu'au 12 juin, ensuite il va à Saintes, il y reste jusqu'au 21 juin, il va à Tonnet-Charente, il y arrive le 24 juin, son armée est déjà là. Elle campe, je vais vous montrer tout à l'heure le site, elle campe sur les plaines de la rive gauche de la Charente. Le roi d'Angleterre s'installe dans le château de Tonnet-Charente qui est en rive gauche. Il y reste jusqu'au 24 juin. Le 24 juin, il quitte Tonnet-Charente et il retourne à Saintes. Et il y reste jusqu'au 21 juillet. 21 juillet, jour du franchissement de la Charente par l'armée française. Maintenant, voyons l'itinéraire du roi de France. Alors malheureusement, nous avons beaucoup moins d'archives royales françaises qu'anglaises. Donc nous avons des trous dans l'itinéraire de Saint-Louis. Nous connaissons les lieux où il passe, nous connaissons les châteaux qu'il prend, mais nous ne connaissons pas précisément la date. Nous n'avons que trois repères chronologiques. Nous savons qu'il arrive de Chinon, où il a rassemblé son armée, il arrive à Poitiers, il va à Fontenay-le-Comte. Le 6 juin, il prend un château du comte de la Marche à Vouvant, il revient à Fontenay-le-Comte, il va à Niort, Fontenay-Rohan, qui est un important château du comte de la Marche qu'il va assiéger pendant 15 jours. Il va ensuite à Villiers, Traec et Saint-Gelais qu'il prend, puis il redescend. Donc au total, pendant les 40 jours, entre le moment où nous savons qu'il est ici à Vouvant et le moment où il va arriver à Taillebourg le 20, Saint-Louis prend ses 350 km et prend 12 châteaux, dont un qu'il va assiéger pendant 15 jours. Les autres, pour partie, se sont rendus ou ont été assiégés une journée ou deux. C'est donc une campagne extrêmement rapide, parce que faire 350 km en 40 jours, dont un siège de 15 jours, et prendre 12 châteaux pendant ce temps, ça veut dire qu'il a mené sa campagne à une très grande vitesse. Et alors il est intéressant de voir l'itinéraire qu'il suit. Donc quand il arrive à Saint-Jean-d'Angély, à une date que je ne connais pas, mais qui doit être vers la fin de mai ou plutôt, enfin pardon, vers la fin de juin 1242, l'armée anglaise est déjà à Tonnet-Charente. Henri III a commandé tous les bateaux des Rochelais, qui sont ses vassaux, les bateaux des Bordelais, les bateaux de Bayonne, et les bateaux anglais et de ses ports bloquent la Charente. Ils forment un pont, un barrage, pour empêcher l'entrée dans la Charente ou la sortie de la Charente. Saint-Louis arrive à Saint-Jean-d'Angély et il va à Tonnet-Bouton. Il prend Tonnet-Bouton et puis brusquement, il change d'itinéraire. Il se dirige vers Matha, et tort, donc manifestement il va vers Cognac. Et après avoir pris le château du Sœur, brusquement il change de route et il se dirige droit vers Saïbourg, où il arrive le 20 juillet. Alors comment peut-on expliquer l'itinéraire de Saint-Louis? Eh bien, Saint-Louis a un problème. Le roi d'Angleterre, quand il a débarqué ici, avec lui, bon, les chiffres, comme toujours, pour le Moyen-Âge, sont extrêmement difficiles à préciser, mais Henri III a très peu d'hommes. Il a, d'après les chroniqueurs anglais, 1600 chevaliers, 800 arbalétriers et 20 000 fantassins, ce qui est très probablement très exagéré. En fait, Henri III est venu ici à Royan parce que le comte de la Marche lui a promis que tous les seigneurs vassaux du roi de France du secteur se soulèveraient, et donc Henri III atterrit ici avec des coffres pleins d'or pour payer les Français révoltés, et il vient ici à Chambéry-Charente en attendant que les seigneurs du Poitou, soulevés, soient prêts à l'accueillir. Pourquoi va-t-il à Chambéry-Charente ? À l'époque, il n'y a sur la Charente que trois ponts, Taillebourg, Saintes, Cognac. Et il y a des gués, je vous montrerai tout à l'heure, ou des bacs, et notamment il y en a un à Tonnet-Charente. Il va à Tonnet-Charente parce que Tonnet-Charente est le point le plus proche pour aller vers le Poitou. Donc il attend le soulèvement, qui ne viendra jamais, des seigneurs poitevins. Parce que les seigneurs poitevins, qui ne sont pas fous, quand ils ont vu arriver l'armée française, et quand ils ont vu qu'en quelques jours, le roi de France prenait tous les châteaux du comte de la Marche et de ses vassaux, ils sont restés prudemment, notamment le seigneur de Taillebourg, dans leur château, ils n'ont pas soutenu le roi d'Angleterre, qui donc attend ici des circonstances favorables. Donc la tactique de Saint-Louis est de franchir la Charente. Et pour franchir la Charente, il peut utiliser les ponts. Le pont de Taillebourg a une caractéristique. La ville est en rive droite et le pont donne sur la rive gauche. Donc il peut, arrivant, ce qu'il va d'ailleurs faire, arrivant du nord, il est dans la ville fortifiée, alors qu'à Saintes et à Cognac, c'est la situation inverse. La ville est sur la rive opposée, et pour la prendre, il faut franchir le pont qui est fortifié, à Saintes comme à Cognac, qui est fortifié, et ensuite prendre la ville. Donc pour une armée médiévale, c'est un problème grave. Et on ne peut faire ce genre d'assaut qu'avec des bateaux. On ne peut franchir un pont d'une ville fortifiée que si on a des fantassins, et si possible des cavaliers, qui franchissent en amont et en aval de la ville, soit sur des ponts de bois, soit sur des bateaux, de manière à soutenir l'assaut mené sur le pont. Parce que mener un assaut contre une ville fortifiée sur un pont fortifié par le pont est une entreprise difficile au Moyen-Âge. Donc ils ont besoin d'arbalétriers dans la rivière qui tirent sur les défenseurs, et si possible, de fantassins et géos, même de cavaliers, de chevaliers, qui prennent la ville à revers. Donc là, à mon avis, la première idée de Saint-Louis est de s'emparer des bateaux de la Boutonne. La Boutonne est navigable depuis le début du XIIIe siècle. Elle est navigable depuis la Charente jusqu'à Saint-Jean-d'Angély. Il y a une bâtellerie très importante, avec des bateaux de 20 à 30 tonneaux qui transportent le vin qui est exporté par la Charente. Donc en s'emparant de Tenay-Boutonne et de Saint-Jean-d'Angély, Saint-Louis met la main sur tous les bateaux de la Boutonne. Et il est en amont du barrage de bateaux, des bateaux des Rochelais, des Bayonnais et des Bordelais qui ferment l'embouchure, et il est en aval du pont de bois que Henri III fait installer à Tenay-Charente. Je vous rappelle comment est le site de Tenay-Charente. Voici une vue aérienne, le pont qui est inauguré en 1843, le château dont il reste une tour, la ville qui est ici, et la plaine. Donc le viaduc, ce pont est très haut puisqu'il devait permettre le passage des bateaux à voile. Donc l'armée anglaise était ici, dans la plaine, et le roi, lui, Henri III, était dans le château. Et il avait fait installer un pont de bois temporaire, vraisemblablement un pont de bateau, pour lui permettre de traverser. Il est resté que 4 jours à Tenay-Charente, et son armée est restée plusieurs semaines. On a armé chevaliers, un certain nombre de fils de seigneurs locaux. L'armée anglaise est restée longtemps là. Elle attendait plusieurs semaines la révolte des seigneurs poitevins. Donc Saint-Louis pouvait, en ayant mis la main sur la bâtellerie de la Boutonne, il pouvait à ce moment-là remonter la rivière pour attaquer. Mais ici, il avait le pont de Taillebourg qui était fortifié. Donc il est clair qu'il ne pouvait pas faire remonter les bateaux facilement s'il ne prenait pas le pont. Donc il a dû se rendre compte, pour une raison que malheureusement nous ignorons, que sa première tactique, qui devait être de traverser ici avec les bateaux de la Boutonne, ne pouvait pas fonctionner. Donc il essaye de passer par le pont de Cognac. D'où son changement d'itinéraire, vous voyez qu'il est très net, brusquement il fait demi-tour. Et le tout en quelques jours. Je ne peux pas fixer les dates, mais il est clair que ça se passe sur quelques jours. Et puis brusquement, alors qu'il est ici, il est averti que le seigneur de Taillebourg lui livre sa ville. Le seigneur de Taillebourg était un vassal du roi d'Angleterre. Il s'était engagé à tenir la ville. Et le 12 septembre 1242, après la bataille, le roi d'Angleterre va écrire à l'empereur du Saint-Empire romain germanique une lettre dans laquelle il explique les conditions de sa défaite. Et il va dire à l'empereur qu'il avait l'assurance que le seigneur Geoffroy de Roncon, le seigneur de Taillebourg, ne livrerait pas son château aux Français. Et que c'est pour cette raison qu'il s'était installé à Tonnerre-Charente. Et qu'ensuite, laissant son âme à Tonnerre-Charente, il est allé passer la période du 1er juillet au 21 juillet à Saintes. Il était convaincu qu'il n'y avait pas de problème à Taillebourg. Le problème, c'est que nous savons, par le roi d'Angleterre et par d'autres, que Geoffroy de Rancon avait une querelle grave d'honneur avec le comte de la Marche. Et on pense que c'est pour cette raison qu'il a trahi son hommage et qu'il a livré sa ville au roi de France. Donc le roi de France, brusquement, arrive ici le 20, et le 21, il franchit, bataille ou pas, il franchit le pont. Très vite. Or, comme je vous l'ai dit, il a mis en place un pont pour que ses hommes d'armes, 500 à 600 hommes d'armes à cheval, franchissent la Charente. Alors, les auteurs, depuis un certain nombre d'années, depuis le 19e siècle, considèrent que le pont de bois, qui a été construit pour permettre aux gendarmes à cheval de l'armée française, était en amont de Taillebourg. Pour ma part, je pense que ce n'est pas possible pour deux raisons. D'abord, parce qu'il fallait que les bateaux de la Boutonne et tous les équipements pour faire ce pont remontent à Charente et passent sous le pont de Taillebourg. Et à partir du moment où l'armée française n'est arrivée à Taillebourg que le 20, et étant donné que l'armée anglaise tenait la tour qui défendait le pont de l'autre côté et le pont lui-même, je pense qu'il était extrêmement difficile pour les bateaux français de la Boutonne de passer sous le pont pour faire un pont de bois ici. Je pense que par contre, il était beaucoup plus facile avec les bateaux de la Boutonne de faire un pont de bateau en aval de Taillebourg. Par ailleurs, pour faire franchir une rivière, dans la partie qui est en amont ici, la rive droite, à Port-Berthou ou ailleurs, est très escarpée. Alors, on est au mois de juillet, donc en période d'étiage, on peut franchir de l'autre côté, il n'y a pas de problème, mais les sources disent qu'il y avait un marais, une zone de marais, quelque part. Donc ça ne peut être qu'en rive gauche, hein, puisque la rive droite, sur toute la longueur ici pratiquement, est la rive élevée où se trouvent les habitats. Donc, mon hypothèse est qu'ils ont utilisé les bateaux de la Boutonne, qu'ils les ont mis en place quelque part, et que l'endroit où ils les ont mis doit être forcément un endroit où se trouve soit un gué, soit un bac. Pour une raison simple, c'est qu'il faut que les hommes d'armes arrivent. Il faut que les charpentiers qui transportent le bois l'apportent et qu'ils mettent tout ça en place. On n'improvise pas ce genre de choses, et surtout s'ils sont arrivés le 20 et que le pont de bois est terminé le 21. C'est-à-dire s'ils l'ont construit en une journée, en deux jours maximum. Alors j'ai regardé les traités du génie du XVIIe, XVIIIe siècle. Une armée est parfaitement capable, au XVIIe siècle, avec des bateaux, de construire un pont de bois pour faire franchir à la cavalerie en 24 heures, sur des bateaux. Donc je pense que c'était techniquement possible. Et qu'ils l'ont fait, de toute façon, puisque c'est pour ça que l'armée anglaise, qui était sur la plaine de l'autre côté, a reculé, parce qu'elle craignait d'être coupée par les hommes d'armes. Donc je pense qu'il n'y a que deux endroits possibles. Vous voyez, sur cette carte, qui vous donne l'emplacement des péages et des bacs et des ponts, il n'y a que deux endroits possibles, Port d'Envaux et Port-la-Pierre. Je pense que ce sont les deux seuls... Port d'Envaux. Je pense que c'est en fait, ils ont franchi la Charente à Port d'Envaux. Parce qu'il y avait un bac à Port d'Envaux, ce qui veut dire que sur les deux rives, il y avait un chemin d'accès au bac. Et que donc, depuis Taillebourg, la distance n'était pas très grande, et que franchissant la Charente à Port d'Envaux, l'armée anglaise étant ici, il y avait un très grand risque que la retraite de l'armée anglaise vers Saintes soit coupée par les 600 hommes d'armes français à cheval. Alors, je ne pourrais jamais le démontrer, et à mon avis c'est indémontrable, mais la logique et la stratégie militaire me conduisent à penser que c'est ainsi que ça s'est passé. Donc voilà donc notre armée française qui franchit cette rivière. Alors, il y a deux mots pour rappeler la manière dont se présente ce site. Voici une vue aérienne qui date d'avant la destruction du pont, dans les années 80, donc ici la chaussée. Donc ça veut dire que le pont de bois doit être quelque part ici, vers Port d'Envaux. Voici donc le site, avec le château, le pont qui est ici. Et voici quelques documents graphiques qui vous montrent l'emplacement du pont. Donc ici une carte qui est extrêmement intéressante parce qu'elle montre bien le tracé du pont avec le moulin, l'arche marinière par où passaient les bateaux était ici, la tour qui défendait l'entrée du pont en rive gauche était là, il y avait une autre tour qui était ici, et l'enceinte fortifiée de la ville basse de Taillebourg, dont vous voyez ici des vestiges. Ici, un autre plan, qui est le plan de Claude Masse, À un moment où le pont était détruit, vous l'avez ici, mais le moulin existait toujours, il a existé jusqu'à la Révolution, même après. Les deux tours, qui existaient toujours à l'époque, mais toute cette partie du pont était détruite, toutes ces arches étaient détruites. Vous avez ici le document qui est derrière vous, c'est-à-dire le terrier de 1788, qui vous montre le parcellaire de la partie basse de Taillebourg, avec la place, avec la place des pêcheurs, le moulin, qui existait toujours, il existe encore après la Révolution, et les différentes arches du pont. Le pont avait au total 9 arches sur 8 piles, dont une grande arche, immédiatement après le moulin, là ici, qui était ce qu'on appelle l'arche marinière. Donc en fait, ce pont de Taillebourg devait ressembler de très près au pont de Sainte, qui est connu par ses dessins du XVIIIe siècle. Cette partie du pont de Sainte a été construite au XVIIe, le pont médiéval était marqué par l'arc de triomphe actuel qui a été déposé sur la berge. Vous avez ici les différentes arches du pont, le moulin, comme à Taillebourg, l'arche marinière, la tour Montsifrotte qui défendait l'entrée de Sainte, fortifiée, qui était de ce côté. Voici une gravure qui vous montre le pont de Sainte, la partie 17e, on se parle d'elle, l'arc de triomphe, le moulin, l'arche marinière, la tour Montsifrotte et l'enceinte de Sainte. Je pense que le pont de Taillebourg devait être très proche de celui-ci. À une différence près, c'est qu'il était très étroit. Voilà deux cartes postales que j'ai sélectionnées parmi d'autres, hein, qui représentent la pile du pont médiéval. J'ai sélectionné celle-ci parce que la vue est prise dans l'axe parallèlement au pont provisoire de la construite par la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez, si vous comparez, c'est un pont du génie militaire, donc avec les parties piétonnes rajoutées en surpont des deux côtés. Et vous voyez l'étroitesse de la pile du pont médiéval. Et là, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure dans ses mémoires, Joinville écrit que le pont de Taillebourg était moult étroit. Moult étroit. C'est beaucoup plus étroit, notamment, que celui de Sainte, que l'on connaît bien. Alors, vous voyez ici sur cette vue aérienne, qui montre l'ancien pont provisoire. Vous voyez ici la végétation qui indique l'emplacement de cette pile, qui a été détruite récemment. Et là, donc, le cadastre actuel, avec l'emplacement du pont. Donc, le pont médiéval était, vous voyez, à une dizaine de mètres, en aval du pont provisoire, détruit dans les années 80. De l'autre côté du pont, et le prolongement du pont, il y avait le pont ici et la chaussée. Ça, c'est un document du XVIIIe siècle. Voici une gravure de 1856 qui vous montre les 37 arches de la chaussée de Saint-James, qui faisait, selon les auteurs, bon, je ne l'ai pas mesuré, il faudrait que je la mesure, mais selon les auteurs, entre 1100 et 1200 mètres. Cette vue qui est très, très classique, 1892, mais qui montre la chaussée après les réflexions qui ont été faites au moment de la construction du pont, dont les travaux commencent en 1888. Une partie des arches ont été obturées, le parement a été en grande partie refait, et donc la chaussée qui, à l'époque où Claude Masse, au début du XVIIIe, l'a décrit, faisait d'après lui à certains endroits 5 pieds, 6 pieds de large, c'est-à-dire à peine 1,50 m, a été considérablement refaite, et dans son état actuel, elle date en fait de la fin du XIXe siècle, en particulier en largeur. Elle n'est pas de... Vous voyez, une grande partie des arches qui sont là-dessus ont été complètement obstruées, ce qui d'ailleurs explique une partie des retenues d'eau dans l'amont, hein, parce que l'écoulement se fait mal. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce point. Donc, à mon avis, reprenons le dossier. Quand on reprend le texte de Joinville, on s'aperçoit qu'il avait plus de 80 ans en... 1305, quand il, 1309, quand il remet son ouvrage. Mais il raconte, par exemple, la chevalerie d'Alphonse de Poitiers à Saumur en 1241, l'année qui précède la bataille de Taillebourg, il la raconte en détail, avec des détails que nous connaissons par d'autres auteurs, ce qui veut dire qu'il avait des souvenirs personnels. Il explique que le pont de Taillebourg était moult étroit. Comment un homme qui n'a pas vu le pont ou qui n'a pas eu des souvenirs directs peut-il, plus de 60 ans après l'événement, savoir cela, hein, on n'est pas à l'époque d'Internet et des vues aériennes, pour qu'un homme de plus de 80 ans, en 1309, sache que le pont de Taillebourg était moult étroit, il faut qu'il ait des souvenirs. Par ailleurs, dans sa vie de Saint-Louis, dans la page qui suit la relation de la bataille de Taillebourg, Joinville raconte une chose qu'il est le seul à raconter, mais que nous connaissons, dont nous savons qu'elle est authentique par le contexte, il raconte que quand l'armée française victorieuse au mois d'août 1242 remonte vers Poitiers, elle s'arrête à Poitiers. Et que solennellement, devant l'armée française, Geoffroy de Rancon, seigneur de Taillebourg, monte sur une estrade et se fait couper les cheveux parce qu'il avait juré qu'aussi longtemps que l'offense que le comte de la Marche avait faite ne serait pas lavée, il ne se ferait pas couper les cheveux. Et il se fait couper les cheveux solennellement devant l'armée française. Et Joinville raconte l'anecdote. Or, nous savons qu'effectivement, il y avait un grave problème, puisque le roi d'Angleterre l'évoque, entre Rancon et le comte de la Marche. Il y a toute une série d'autres souvenirs de ce genre. Donc la seule hypothèse possible, qui est celle d'ailleurs de Jacques Monfrin dans son édition de 1995, c'est que Joinville ne portait pas les armes pendant la campagne de Taillebourg, mais qu'il accompagnait le comte de Champagne puisqu'il était sénéchal des armées. Qu'il accompagnait l'armée et que les souvenirs qu'il a ne sont pas des souvenirs personnels parce qu'il n'était pas à la bataille. Mais il a eu les souvenirs de ses compagnons d'armes. Et en tant que sénéchal, c'est-à-dire responsable des armées, voilà. En tant que responsable des armées du comte de Champagne, il a eu tous les souvenirs de ses compagnons d'armes avec lesquels il a guerroyé ensuite pendant des années. Il a fait la croisade avec eux. Et ce sont ces hommes qui, immédiatement après la bataille ici à Taillebourg, puis à Saintes, puis à Poitiers, puis dans les années qui ont suivi, qui ont raconté la bataille. Donc en fait, ce que je pense, c'est que nous sommes certains que la bataille de Taillebourg a eu lieu. Parce que, comme je viens de vous le montrer, il fallait que l'armée française franchisse la Charente. Elle ne pouvait le faire que sur un pont. Et à partir du moment où elle a franchi la Charente, ici, à Taillebourg, le roi d'Angleterre est obligé de battre en retraite, et sa retraite qui s'est faite dans le désordre, comme toujours dans une armée qui bat en retraite, très vite, explique la défaite extrêmement forte du 22 juillet devant les murs de Saintes. Donc la bataille de Taillebourg n'est pas forcément une grande bataille qui a engagé beaucoup d'hommes, mais c'est une bataille qui tactiquement est très intéressante. Construction d'un pont de bois, manœuvre d'encerclement, recul de l'armée anglaise, défaite le lendemain. Donc je pense qu'elle a eu lieu. Clairement, il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas démontrer, c'est l'engagement personnel de Saint-Louis. C'est-à-dire ce que raconte Joinville, quand il dit que le roi de France s'est, au péril de sa vie, précipité sur le pont où seulement deux hommes pouvaient se battre de front. Ça, nous n'avons que le témoignage de Saint-Louis. Et nous ne pouvons pas, par l'étude du terrain, par la connaissance des lieux, de la tactique militaire, nous ne pouvons pas dire quelle est la part de Saint-Louis. Mais je suis convaincu que l'ensemble de la bataille montre, de la campagne, montre que cette campagne a été conduite de main de maître, pas par le roi de France, mais par son entourage. Ils ont conduit cette bataille en 40 jours, très vite. Ils ont franchi un fleuve qui était difficile à franchir. Ils ont battu les Anglais. Ils étaient en supériorité numérique. Hein. On ne sait pas de combien, mais ils devaient être à 1 contre 4 ou 5. Hein. Enfin, 4 ou 5 contre 1. Donc, ils avaient une supériorité numérique. Mais il fallait d'abord franchir la Charente pour que la supériorité ait un sens. Donc, ma conclusion, c'est que la bataille de Taillebourg a eu lieu, mais que je suis incapable de dire quel a été l'engagement personnel de Saint-Louis. Cela étant, Joinville est un témoin fiable. Tous les témoignages de Joinville sur la croisade, connus par les sources arabes ou françaises, anglaises ou allemandes, sont tous authentiques. Donc je pense que la bataille de Taillebourg a eu lieu.